Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom.
Le retour des empires.
Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
Aujourd'hui, Russie-Ukraine, 2 ans d'invasion, 10 ans de guerre, partie 2. L'Ukraine, naissance d'une nation. Sylvie Berman, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est qu'avec un fort décalage que l'Occident s'est aperçu du caractère révolutionnaire et ultranationaliste de Maïdan, devenu flagrant avec son engagement dans la violence. À l'heure où Maïdan enterrait ses premières victimes, les médias occidentaux continuaient à parler de manifestants pacifiques, morts pour l'Europe. Et lorsqu'ils ont fini par admettre, en fin de compte, cette radicalisation, celle-ci a été présentée comme la conséquence directe de l'absence de concession de la part de Yanukovych, soulevant de plus en plus de colère chez les insurgés et leurs sympathisants, qui exigeaient sa démission immédiate et le démantèlement de tout le système qu'il incarnait. Cependant, pour qui voulait voir et entendre, la symbolique ultranationaliste sur Maïdan avait vite supplanté et marginalisé celle de l'Union européenne. Dès le début des rassemblements, les drapeaux rouges et noirs de Bandera fleurissaient sur Maïdan, aux côtés d'autres drapeaux de l'extrême droite, comme celui du parti Svoboda, celui du KUN, Congrès des nationalistes ukrainiens, celui de l'UNA, l'UNSO, celui du Trident de Bandera ou celui du Patriote d'Ukraine. Extrait, les dessous de la révolution ukrainienne. D'une contestation civique à une guerre identitaire. Olla Ostrychuk, publié dans la revue Le Débat.
Sylvie Berman, donc nous venons d'entendre ce texte d'une chercheuse qui travaille d'ailleurs ici aussi en France. Bon, elle est vraiment très très critique. Elle analyse cette révolution de Maïdan, donc en 2014, comme étant pris en main par les nationalistes. Elle ne nie pas non plus qu'il y avait quand même une appétence des manifestants pour se rapprocher véritablement de l'Union européenne. Comment vous analysez d'abord ce moment-là, effectivement? Est-ce que, bon, elle est très très radicale. Poutine serait très heureux d'avoir ce genre d'analyse. Est-ce que il y a une part de vérité là-dedans? Est-ce que véritablement les nationalistes, les ultranationalistes ont pris rapidement le pouvoir, ou est-ce que sa focale est un peu trop forte?
Oui, je crois que c'est très excessif. Je connais beaucoup de jeunes Ukrainiens, Ukrainiennes, qui étaient à Maïdan et qui étaient sincèrement pro-européens. Et c'est pour cela qu'ils se battaient. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a eu une présence des ultra-nationalistes, des forces, bon, elle évoque Bandera, Svoboda, etc., avec d'ailleurs les croix gammées. Et les Russes, d'ailleurs, ne sont pas privés de montrer ces photos et de continuer à montrer les photos pour prouver que l'Ukraine est nazie. Le problème du nationalisme en Ukraine ou de l'ultranationalisme, c'est qu'il vient effectivement de Bandera, qui a travaillé pour les nazis, pour la Gestapo, et dont le programme était l'extermination des Juifs, des Polonais et des Russes, qui d'ailleurs ont été effectivement exterminés. Et même les Polonais, qui sont très proches des Ukrainiens, avaient protesté quand le commandant en chef des forces armées, Zaloujny, avait levé le pouce devant un buste de Bandera. Parce qu'il y a eu 70 000 Polonais qui ont été exterminés à la suite de cette politique. Donc effectivement, cette référence au passé, le fait que Bandera, parce qu'il était en faveur d'une Ukraine indépendante, même si force a été de constater pour lui que le but des nazis, c'était sûrement pas d'avoir une Ukraine indépendante, mais il n'empêche qu'il y a malgré tout cet héritage-là qui reste en Ukraine. Mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas la majorité non plus à Maïdan.
Et aujourd'hui, d'accord, à Maïdan, ça c'est sûr. Est-ce qu'en revanche, bon, bah, 10 ans plus tard, après 10 ans de guerre, on peut dire aussi d'ailleurs que cette guerre, et surtout depuis l'invasion, hein, il y a une sorte, on voit la naissance d'une nation, parce que finalement l'Ukraine était quelque chose d'un peu mou, entre guillemets, jusqu'alors. Et là, on voit vraiment un peuple tenter de créer une nation. Mais est-ce que justement, le mot est le mot, hein, nation c'est le nation, est-ce que justement ce nationalisme ou cet ultranationalisme qui n'était pas si fervent à Maïdan, à la faveur de la guerre qui a commencé dans la foulée, et surtout à la faveur de l'invasion qui a commencé il y a 2 ans maintenant, est-ce que ce nationalisme, voire cet ultranationalisme, n'a pas commencé à vraiment à se cristalliser aujourd'hui au sein de la société ukrainienne et peut-être plus particulièrement dans l'armée ?
Bon, c'est effectivement une composante, mais le terme nationaliste est souvent péjoratif, mais en même temps, c'est aussi une identité nationale qui s'est forgée en réaction à la guerre. Si vous prenez la ville d'Odessa, qui était une ville non seulement russophone, mais très russophile, eh bien, du jour au lendemain, ils ont changé, parce que ça a été une agression de la Russie, effectivement, avec de nombreux crimes de guerre. Et pour eux, cette résistance ukrainienne est devenue existentielle. Donc que vous ayez en son sein encore, bon, il y a eu tous les débats autour du bataillon Azov. C'est sûr que le bataillon Azov, au départ, était ultranationaliste et nazi. Bon, il s'est élargi par la suite. Donc vous avez effectivement cette composante, mais qui n'est pas la composante majoritaire.
Y compris aujourd'hui, je pense que la société.
Non, mais c'est simplement, encore une fois, une identité nationale qui est en train de se forger et qui se forge évidemment contre la Russie.
Donc on peut dire aujourd'hui que les Européens ont raison de vouloir petit à petit accepter l'Ukraine dans son giron. Mais est-ce que l'Ukraine est vraiment pleinement européen ? Est-ce que vous pensez que ce pays est voué à entrer dans l'Union européenne ?
Alors, quand je suis allée en Ukraine, enfin, surtout la dernière fois, c'était en janvier 2022 quand même, on avait fait un séminaire donc avec des Ukrainiens de tous bords. Et là, la différence aussi des générations était palpable. Vous aviez finalement, d'un côté, une société qui restait post-soviétique et pas vraiment démocratique. D'ailleurs, les jeunes, eux, étaient critiques du système parce qu'il y avait toujours l'oligarchie de type soviétique, y compris pour Zelensky, qui avait son propre oligarque Kolomoïski. Les privatisations n'ont pas eu lieu, l'état de droit n'a pas été mis en place, et c'était un pays qui était gangréné par la corruption. Et c'était dénoncé par des jeunes qui, eux, avaient créé des ONG et qui, eux, étaient démocratiques et véritablement européens. Donc c'est un pays qui est en train de fortement évoluer. Et aujourd'hui, de toute façon, bon, le statut de candidat lui a été reconnu. Les négociations vont s'ouvrir, mais il y a des critères pour adhérer à l'Union européenne. Il y a des critères de droit, et des critères de démocratie aussi. Et je pense que le héros national Bandera posera un problème dans le processus d'adhésion. Mais je crois qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, le train est parti.
On dit, ça fait partie des analyses plus ou moins complotistes, je ne sais pas, que Maïdan a aussi été une construction made in CIA, comme on dit. Bon, pour en revenir à ce que nous avions dit dans l'épisode précédent, où on a vu que des pays comme la Pologne, les pays baltes peut-être aussi, ont été très fortement anti-russes dès le départ, c'est-à-dire dans les premières années de Poutine, et que ça, tout cela a été fait aussi dans le cadre d'une relation assez forte avec les États-Unis, qui à cette époque-là passaient leur temps à violer le droit international. Quand certaines personnes disent qu'il y a cette espèce de rapport avec la CIA, donc avec Washington, est-ce qu'il y a une réalité là, par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a quand même une influence très très forte américaine pour pousser à ce que l'Ukraine rentre dans le giron européen pour en faire, on va dire, une sorte de pays relais supplémentaire ?
Il n'y a pas de complot de la CIA, mais c'est vrai que c'est des mouvements qui ont été fortement encouragés par les États-Unis. On rappelle Victoria Nuland, l'ambassadrice américaine, je crois, à l'OTAN à ce moment-là, qui s'est rendue, qui a offert des donuts aux partisans à Maïdan. Mais c'était une époque très messianiste des États-Unis, où ils voulaient favoriser les révolutions démocratiques dans le monde entier. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils aient soutenu Maïdan comme tout ce qui a été appelé révolution de couleur.
Et la France, là-dedans, comment elle se situe par rapport à l'Ukraine, par rapport à cette entrée? Alors, vous l'avez dit dans l'épisode précédent, Emmanuel Macron a quand même changé Kazakh. Au départ, il était le seul à parler à Poutine. Et aujourd'hui, on sait qu'Emmanuel Macron a mis la France véritablement dans les pas de Kiev. Et donc, comment Macron et compagnie pensent la relation avec l'Ukraine aujourd'hui et demain?
Ben, en tout cas, le président Macron a été un des premiers à soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et puis l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Maintenant, c'est des positions qui ont été exprimées officiellement et clairement. Et d'ailleurs, lors du dernier sommet de l'OTAN, alors que les États-Unis et l'Allemagne étaient opposés à l'adhésion immédiate de l'Ukraine, en tout cas parce que c'est un territoire qui n'a pas de frontières reconnues ou c'est un territoire divisé, lui s'était prononcé pour cette adhésion. Donc, effectivement, aujourd'hui, il a pris ce parti-là.
C'est une décision politique qui a été prise, mais d'un point de vue, j'allais dire, diplomatique, stratégique, dans un moment de négociation, etc., est-ce que ça signifie quelque chose et est-ce que c'est efficace?
Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est un petit peu écartée de la négociation. C'est-à-dire que si négociation il y aura, c'est sûr, c'est les États-Unis qui seront le maître d'œuvre.
On l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, cette guerre, finalement, a abouti à quelque chose d'un peu paradoxal pour Vladimir Poutine, puisqu'il a utilisé le mot opération spéciale parce qu'il pensait que ça ne durerait pas. Bon, finalement, ça a relancé l'OTAN. Et effectivement, ça a permis à un pays comme l'Ukraine d'être dans une logique de création d'un sentiment national. Alors, dans le même temps, on le voit aujourd'hui par le truchement de reportages, de témoignages, cette guerre en Ukraine amène une forme de division qui est en train de se mettre en place entre finalement une population avec donc une partie de la population ukrainienne qui est très très investi militairement, des familles qui sont très investies militairement d'un côté, et puis une sorte de deuxième Ukraine qui aujourd'hui représente une sorte d'arrière un peu mou, où les tensions commencent à monter assez fortement à l'intérieur au sein même de ce pays-là, quoi. Est-ce que la diplomatie internationale a conscience de ça? Est-ce que ça risque de poser problème par la suite? Qu'en est-il de cette situation?
Oui, je crois que la communauté internationale en est consciente, même si l'Ukraine et Zelensky en particulier, en étant toujours trop optimistes, essayaient un petit peu de dissimuler ces tensions. Aujourd'hui, elles apparaissent au grand jour avec le limogeage de l'homme le plus populaire en Ukraine. Donc, il montre qu'il y a des dissensions très fortes, pas seulement sur l'approche de la guerre, mais sûrement l'approche de la solution in fine. Ça a commencé au moment de Bakhmout où Zelensky tenait absolument à continuer à se battre alors que Bakhmout était perdu et n'avait d'ailleurs pas d'intérêt stratégique pour l'Ukraine, alors que Zaloujny voulait davantage épargner les hommes et était partisan du réalisme, comme il a fini par le dire dans une interview à The Economist, en parlant d'impasse. La mobilisation est aussi un véritable problème en Ukraine. En fait, il y a plus de 500 000 jeunes Ukrainiens qui ont quitté le pays pour ne pas être recrutés. Il y a de véritables rafles, en particulier en ce moment à Odessa, pour ceux qui sont en âge de se battre, qui essaient d'y échapper. Et s'il y a eu un enthousiasme très fort au début, parce que, encore une fois, c'était existentiel et leur pays risquait de disparaître, je ne suis pas sûre aujourd'hui, à partir du moment où ils considèrent que Kiev est sauvé et que l'avenir de l'Ukraine, malgré tout, même si c'est dans des frontières encore incertaines, est assuré, je ne pense pas que les gens aient envie de mourir autant pour le Donbass. c'est effectivement des difficultés. D'ailleurs, même Zelensky l'a reconnu à un moment, puisqu'il a dit il y a quelques semaines, on ne peut pas forcer des gens qui ont été totalement russifiés à rejoindre l'Ukraine. S'ils ne nous aiment pas, c'est difficile. Bon, il ajoutait, en revanche, les Criméens nous attendent. Bon, ce qui n'est pas sûr, mais en même temps, c'est une forme de reconnaissance que, d'une part, ils ne récupéreraient pas le Donbass ou la totalité du Donbass, et que d'ailleurs, même s'ils le faisaient, ce serait difficile, sachant qu'en plus, le Donbass est totalement détruit aujourd'hui.
Et de l'autre côté du Dniepr, à l'ouest, la guerre est beaucoup moins présente, naturellement. Vous dites qu'il y a des rafles, est-ce que ça correspond aussi à ces régions-là? Parce que ces régions-là n'ont pas forcément envie. Elles sont très pro-européennes, pour le coup, puisqu'elles se rapprochent. Mais vous l'avez dit, ceux qui sont soit russifiés, très russifiés, n'ont pas envie de se battre contre les Russes. Donc, ceux qui ont une notion de nation, en eux, ils sont allés dès le début. Mais les pro-européens qui ont l'habitude d'aller en boîte de nuit, etc., et d'avoir notre mode de vie, ça n'a pas l'air vraiment de les motiver non plus d'aller se faire tuer sur le front.
Non. Mais en particulier, je crois, parce qu'aujourd'hui, c'est le Donbass. Je veux dire, c'est plus le pays entier qui est menacé. En tout cas, c'est la perception. Ils n'ont pas envie d'aller sur le front. C'est pour ça, d'ailleurs, que Zelensky hésitait à répondre à la demande de Zaloujny de mobiliser 500 000 hommes, parce qu'il était conscient du caractère impopulaire et peut-être irréalisable de cela. Il y a une loi qui, pour le moment, est examinée par la Rada, mais qui est à chaque fois édulcoré, bien pour le moment, sur le front, l'âge moyen, c'est 43 ans, ce qui veut dire que les jeunes ne veulent pas y aller et qu'il n'y a pas de remplacement non plus. Et ça, c'est un gros problème pour l'Ukraine.
Au niveau de cette perception dont vous venez de parler, cette perception que Kiev est protégé, cette perception, c'est Zelensky ou c'est le peuple ukrainien?
Non, je pense que c'est une perception générale. Ça ne veut pas dire que Kiev est totalement protégé, mais cet objectif qui semble être le premier de Vladimir Poutine d'intervention à Kiev paraît maintenant s'éloigner. D'abord parce que Kiev est protégé également par un système de protection aérienne, ce qui n'était pas le cas au début, mais même si les Russes continuent à frapper. Mais le sentiment, c'est qu'ils ne cherchent pas à investir Kiev.
Pour en revenir de l'autre côté maintenant, côté Est, côté Donbass, au début de la guerre, c'était particulier. Moi, je suis allé beaucoup dans les années 2015, 2017, 2019. Et il y avait une dimension très soviétique, en fait, très, très présente sur place. C'est-à-dire qu'au fond, on n'était pas véritablement russe, on n'était peut-être pas vraiment ukrainien. On était surtout le poumon de l'Ukraine, puisqu'on continuait à vendre du métal, notamment, et les mines étaient encore en fonction. Est-ce que dans la partie ukrainienne du Donbass, qui certes est encore détruite, est assez détruite, mais pas complètement quand même, est-ce que cette fois on est passé complètement de l'autre côté? Est-ce qu'on est véritablement ukrainisé? Ou est-ce qu'on a quand même la famille qui est à 200 mètres de l'autre côté, et puis de l'autre côté de la frontière tout court? Est-ce qu'il y a quand même une partie encore, y compris côté, on va dire, ukrainien, enfin contrôlée par l'Ukraine? Est-ce qu'il y a encore un doute, quoi, sur l'identité, sur la volonté de ce qu'on veut faire?
Non, mais je ne suis pas sûre de ça, parce que ce que je sais, c'est qu'il y a eu des ruptures totales entre des familles de chaque côté de la frontière, et des familles qui, avant la guerre de 2022, ne se parlaient déjà plus, parce qu'il y avait eu des déplacements de population, et ceux qui sont restés dans la partie du Donbass dirigée par les séparatistes étaient véritablement pro-russes et soviétiques, comme vous le dites, Ça frappait tout le monde. Moi, je devais y aller quelques jours après, mais bon, comme la guerre a éclaté, j'ai pas pu y aller. Mais c'est ce que disait tout le personnel de l'OSCE qui s'y rendait régulièrement. Non, je crois qu'il y a maintenant cette rupture totale, et on voit bien d'ailleurs la résistance de certains Ukrainiens. Alors cela dit, d'autres ont été accusés de collaboration, c'est vrai. C'est difficile à l'heure actuelle, comme on ne peut pas y aller, de mesurer le sentiment des populations.
Il y a, en tout cas, une sorte de... Enfin voilà, cette fois, j'allais dire la haine vis-à-vis de la Russie est très, très ancrée, selon vous, dans le pays, quoi.
Ah oui, totalement. Ils parlent des orques, enfin, ils ont un propos très, très dur vis-à-vis des Russes. Ce qui s'est passé au début de la guerre, les premiers jours, c'est que, comme il y a beaucoup de familles ukrainiennes qui ont de la famille en Russie et vice-versa, les Ukrainiens vivant en Ukraine ont appelé leur famille en Russie en disant « mais on nous tire dessus ». Et ils ont répondu « mais pas du tout, c'est les Ukrainiens qui vous tirent dessus ». Et du coup, même entre ces familles, il y a eu une rupture. Et on le voit parce qu'il y a un rejet de tout ce qui est la Russie. Je veux dire, quand on abat les statues de Pushkin ou qu'on fait des autodafés de livres des auteurs russes, c'est une haine qui dépasse Poutine. Alors que c'est une guerre voulue par Poutine, c'est vraiment la guerre d'un homme, même s'il a obtenu des soutiens. Donc, ce n'est pas un rejet par les Ukrainiens du régime, c'est un rejet de la Russie. En plus de ça, il y a eu beaucoup de propos sur la défaite totale de la Russie qui exploserait en plusieurs États. Il ne resterait que la petite Moscovie qui d'ailleurs sortirait de l'ONU. Enfin, il y a... c'est véritablement de la haine. Alors, compréhensible par rapport, évidemment, à tous les crimes commis par les Russes, mais qui, encore une fois, va au-delà du régime et des fauteurs de guerre.
Et cette haine dont vous parlez, là, je fais une petite parenthèse, petite incise, une question un peu personnelle que je vous pose, là, pour le coup, il faudrait normal qu'au fond, en France, en Europe, il y ait des espèces, non pas d'autodafé, mais enfin des interdictions d'artistes. Est-ce que ce sont des réactions normales ?
Ben, à titre personnel, moi, je suis totalement contre le fait de pénaliser des artistes, sauf si vraiment ils se sont prononcés en faveur de la guerre et qu'ils soutiennent ça. Mais sinon, Anna Netrebko est une des plus grandes chanteuses au monde et il faut la laisser chanter en Occident.
Aujourd'hui, il y a la guerre aussi en Israël, enfin, entre Israël et le Hamas, qui a totalement détourné l'attention après 18 mois de guerre russo-ukrainienne. Est-ce que cette démédiatisation, entre guillemets, de la guerre russo-ukrainienne est un danger pour l'Ukraine ?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'Ukraine fatigue en anglais, puisque fatigue, c'est un mot français qui est repris dans la langue anglaise. On le voit dans certaines opinions publiques, puis on le voit aux États-Unis. Puisque au départ, et je ne parle même pas des querelles entre républicains et démocrates pour des raisons électorales, mais il y a eu un sondage aux États-Unis qui a fait apparaître, je crois, que 55% de la population n'était plus aussi favorable à un soutien à l'Ukraine. Et puis surtout, dans ce pays où probablement la grande majorité des gens ne savent même pas où ça se situe. Enfin, c'était plus une réaction par rapport à la Russie qu'un véritable soutien pour l'Ukraine. C'est différent en Europe parce que, d'abord, on a accepté l'Ukraine comme candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Et puis, l'Ukraine est en Europe et on s'est engagé directement. Donc, il y a plus de côté affectif en Europe au soutien à l'Ukraine qu'il n'y en a aux États-Unis.
Là-dedans, est-ce que Zelensky continue d'être l'homme lige, l'homme qu'il faut véritablement pousser, ou est-ce qu'on regarde un peu ailleurs ? Est-ce que les partenaires en fait de l'Ukraine actuelle se disent peut-être qu'il faut aussi voir avec d'autres partenaires à l'intérieur du système politique, du monde politique ukrainien ?
Comme Poutine est l'élu du peuple russe, Zelensky est l'élu du peuple ukrainien, et donc on traite avec ceux qui sont au pouvoir.
Sylvie Berman, merci beaucoup. Nous allons nous arrêter sur cette dernière phrase, mais avant de s'arrêter complètement, vous nous avez amené un texte, donc c'est Tchekhov, je crois, que vous avez choisi.
C'est Tchekhov, c'est Oncle Vania, c'est la dernière tirade ou l'avant-dernière tirade de Sonia qui, en fait, révèle un peu tout le malheur russe, à la fois la résilience et puis une forme de fatalisme. Qui faire ? Il faut vivre quand même. Nous allons vivre, oncle Vania. Nous allons vivre une longue, longue file de jours, de soirées. Nous allons patiemment supporter les épreuves que nous infligera notre sort. Nous travaillerons rien que pour les autres. Et aujourd'hui, et lorsque nous serons vieux, nous mourrons avec résignation. Et de l'autre côté de la tombe, nous raconterons que nous avons souffert, que nous avons pleuré, que nous avons connu l'amertume, et Dieu aura pitié de nous. Nous allons voir mon oncle. Nous allons voir tous les deux, mon cher oncle, une vie lumineuse, belle, harmonieuse, qui nous donnera de la joie. Et nous penserons à nos malheurs d'aujourd'hui avec un sourire ému. Et nous nous reposerons. J'y crois, mon oncle. J'y crois avec feu, avec passion. Nous nous reposerons.
Merci beaucoup.
Le retour des empires.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.